5 to 6 p.m. on the radio network of the Cameroon Radio Television, a presentation of Manka Ambe and Clarice Njanga, our top stories.
Douala, du poisson débarqué et conservé dans de meilleures conditions, les pêcheurs et commerçants de la capitale économique ne rêvent pas. Le débarcadère et le marché au poisson de Yupwe, dont du gouvernement japonais, sont désormais fonctionnels. Inauguré ce vendredi par le premier ministre chef du gouvernement, qui convoque la responsabilité des usagers.
Prime Minister, Head of Government Joseph John Gute inaugurates an over 6 billion CFA francs ultra-modern landing stage and fish market in Yupwe Douala, fruit of bilateral cooperation between Cameroon and Japan. This huge investment is expected to boost the local economy and improve the lives of the people.
Élaboration élection 2025 au Cameroun, la SOPECAM vise l'excellence. Tenue ce jour à Yaoundé, sous la présidence du ministre Joseph Lay, les travaux du conseil d'administration ont abouti à l'élaboration d'un plan de couverture des prochaines échéances électorales. Budget voté, un peu plus de 22 milliards de francs CFA.
Officials of the National Institute of Youth and Sports, INJS, have adopted a budget of over 950 million CFA francs, which will be used for infrastructural projects and to make the institution a university enterprise. The amount was adopted during the third ordinary session of the board of directors that took place in Yaoundé today under the auspices of the board chair, Adum Garua. Those are our top stories.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour. Le sport, l'actu internationale. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi de vous informer sur la CRTV Poste National. Amélioration des conditions de travail de la communauté des pêcheurs et de la qualité du poisson vendu aux consommateurs. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gute, a procédé en matinée à Douala à l'inauguration officielle du débarcadère et du marché aux poissons de Yupwe. Politique d'import-substitution, politique agro-pastorale et halieutique du chef de l'État. Rien n'a échappé à la masse de l'émissaire du président de la République. La pêche s'est avérée fructueuse. Notre envoyé spécial à Douala, Laurentine Bokono.
Cameroun Oboso.
Quelle pêche en ce jour de grand marché, à l'orée d'un week-end qui débouchera inexorablement sur la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Il a choisi de faire son marché à Yupwe, ici à Douala. La période est tout à fait favorable à la pêche et au marché du poisson.
Est-ce que les populations de Yupwe sont présentes?
Honoré, Yupwe et ses habitants, pour la plupart des pêcheurs et des commerçants de poissons, se sentent ragaillardis et anoblis dans leur activité principale. Les eaux fluviales du Vouri sont montées de quelques crues ici à Douala, porte d'entrée de l'océan Atlantique, pour saluer l'événement. Des discours prononcés, l'on retient d'abord le souhait de bienvenue par l'autorité municipale qui dit merci au chef de l'État pour la construction de ce magnifique ouvrage. L'ingénieur des travaux en a présenté la composition. Érigée sur une superficie de 6 100 m², l'infrastructure comporte un quai de débarquement et d'embarquement des pirogues de pêche et de transport, un système de drainage, des espaces de vente des produits halieutiques frais ou transformés, une unité de stockage, entre autres. Quand arrive le tour de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Minani Kentaro, l'on note que cet investissement constitue un don japonais non remboursable d'environ 7 milliards de francs CFA. L'ami japonais des bons et mauvais jour a toujours soutenu le Cameroun dans toutes les épreuves, dira le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gute, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Et de citer le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l'effet d'accompagner le Cameroun sur le chemin de son émergence. Le quai d'embarquement marque 11h05 quand interviennent la coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque commémorative. C'est désormais dans un environnement entièrement entièrement modernisée que les activités de pêche de Yupwe vont s'exercer sur cette plateforme entièrement relookée à Douala. Yupwe, Laurentine Bekono, envoyée spéciale CRTV.
L'infrastructure inaugurée est un véritable levier pour le développement de l'économie bleue et de la pêche artisanale dans la région du littoral. Le Premier ministre invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Écoutons Joseph Diongouté dans cet extrait de discours sélectionné par Laurentine Bekono.
Dans sa stratégie de développement à l'horizon 2030, le Cameroun se donne pour ambition d'assurer son autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés de la sous-région à travers la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Cette ambition se matérialise dans le cadre de la politique d'import-substitution décidée par le président de la République et prend une envergure particulière grâce au plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique. Pour ce qui est de la pêche et de l'aquaculture, il s'agit d'améliorer les équipements et les infrastructures de production, de transformation, de conservation, mais aussi de mise en marché des produits halieutiques. Dans cette logique, l'un des leviers d'action est incontestablement l'aménagement des points de débarquement dans les principaux plans d'eau et les pêcheries. C'est dire que le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Yupwe traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, d'optimiser la sécurité sanitaire des produits de la pêche, en même temps de promouvoir le travail décent. L'infrastructure qui est inaugurée ce jour est un véritable levier pour le développement de l'économie bleue et de la pêche artisanale dans la région du littoral. Elle va contribuer à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que les conditions hygiéniques de commercialisation du poisson. J'invite les utilisateurs à en faire bon usage.
Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, situé au sud des quartiers Bonaprizo et Bonadouma 2 et à l'ouest de la zone aéroportuaire, dans la commune de Douala 2e, Yupwe, où a été construit le débarcadère et le marché aux poissons, est un centre d'intérêt pour les pouvoirs publics. Clovis Chamabo de CRTV Littoral nous en dit plus.
L'action de l'homme sur la mangrove de Yupwe présente de nos jours des répercussions sur les milieux physiques, biologiques et humains. Selon les experts, cette expansion démesurée de l'habitat empiète sérieusement sur la biodiversité de cet espace côtier avec des conséquences sur l'aménagement mais aussi sur la préservation de l'environnement. Professeur Charlie Ndala Ngangue, spécialiste en dynamique littorale et océanographie, enseignant à l'Université de Douala.
Un des aspects les plus dévastateurs, c'est qu'on coupe la mangrove. Et pire encore, on fait des remblais. Et quand on fait des remblais, c'est avec la terre collectée à l'intérieur du pays ou alors la terre latéritique. Ce qui fait que ça compacte le sol et ça change la structure du sol. Donc le sol vaseux sur lequel croît la mangrove est donc modifié totalement. Donc toutes les espèces comme les huîtres, les crabes, les espèces malacologiques, donc qui vivent dans la boue, sont immédiatement tuées et les plantes ne peuvent plus se développer sur cet espace.
Pour associer l'urbanisation du quartier Yupwe et la préservation de la mangrove, il faut au préalable définir des zones de construction.
Faire un plan d'urbanisation qui intègre des zones à ne pas toucher.
L'espace côtier de Yupwe présentera alors une mosaïque permettant le développement des écosystèmes.
Tout ceci demande une étude de la marégraphie, une étude de circulation des courants.
La construction du débarcadère et du marché aux poissons de Yupwe s'inscrit justement dans cette dynamique. Douala Clovis Chamabo, CRTV.
Prime Minister Head of Government Joseph Diongouté has reiterated government's ambition of making Cameroon self-sufficient in fish production and of eventually becoming a major supplier to markets of the sub-region. He was speaking today in Yupwe, Douala, during the inauguration of the ultra-modern landing quay and fish market constructed with aid from the Japanese government. Star Building correspondent Christian Chiatam reports from Douala.
Bright sunshine and colorful scenes in Yupwe Douala. Happy inhabitants and jubilant supporters of the CPDM turned out in numbers Friday to celebrate the opening of the new fish market and landing quay.
Nous soutenons le secteur de la pêche au Cameroun depuis nombreuses années.
After a word of gratitude from the mayor of Douala, the Japanese ambassador presented the fish market and landing stage as the latest fruit of the strong bilateral ties linking his country to Cameroun.
Le Japon et le Cameroun sont en train d'envisager un nouveau projet.
Minami Kentaro recalled that the structure comes to add to other fish management facilities constructed by Japan in Cameroon. He promised the future arrival of Japanese experts in fishing to continue training and helping Cameroonians in the hinterland to have more access to sources of animal protein.
De prendre la parole en cette circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya.
The Prime Minister, Joseph Dangote, in his keynote, paid a special tribute to the government of Japan for funding the construction of the Yupwe landing stage and fish market. Speaking on behalf of the President of the Republic, he noted that the Japanese government has constructed similar facilities before in Maga and in Kribi. Joseph Dangote further saluted the significant role played by the government of Japan in the ongoing reconstruction process in the northwest and southwest regions. He reiterated that the government's vision for the fishing subsector, as inscribed in the National Development Strategy, is to make the country self-sufficient in fish production and to eventually make the country a major supplier to markets of the sub-region. Joseph Dangote invited traders who shall be using the fish market, as well as officials of the Douala City Council, to take good care of the facility. Douala, Christian Chiatam, CRTV.
The newly inaugurated Yupwe fish market promises to attract potential business people to the area situated in the Douala 2 subdivision. There is therefore the need to set up environment management systems for prevention and conservation. Roslyn Fosa.
Well, the effects of human activities on the Yupwe mangrove touch the physical, biological and human environment. According to experts, the expansion of habitat seriously endangers the biodiversity of this coastal area with consequences on development, but also the preservation of the environment. Professor Charlene Darangange is an expert in coastal dynamics and oceanography.
One of the most devastating aspects is cutting the mangrove, but worse of it all is filling the mangrove with ground. This affects the soil. Species like lusters, crabs and others that live in the mud are killed, and plants can't develop on the space.
In such an important yet fragile zone, urbanization and preservation must be respected.
An urbanization plan that takes into account no-go areas is needed. Areas that can be considered as plantation where we can regenerate the mangrove, create ecological conditions.
The coastal area of Yupwe also needs specific studies for the development of its ecosystem.
All this requires studies. It is important to check the swampy nature, the circulation of the current, and above all, avoid pollution.
The construction of the landing space and the Yupwe fish market is part of this dynamic. Rosling Fosa, CRTV News, Douala.
After the inauguration of the renovated Yupwe fish market in Douala, users have expressed satisfaction, adding that there are many advantages for the activities. Kola Maluke compiled their views in this report.
It was with sounds of joy that users of the structure expressed gratitude. Between the sheds and counters set up at the landing stage and the Yupwe fish market, traders expressed joy with the modern infrastructure, which comes to improve their working conditions.
We were suffering moths all over, but today I'm very happy and full of joy to appreciate what the government have done to us in Yupwe.
I feel gladness, happy, because God, you don't change our market. He don't move you for mud. He put you for fine place.
I'm so very happy for this opportunity to enter this new market. And I thank God because I'm here to sell for fish and also with a big fish.
Thanks to this structure, users are sure of improving sales.
We make a lot of money because the place is clean. It's very nice for everybody.
The Yupwe landing stage, which is a materialization of the Cameroon-Japan cooperation ties, has also been lauded by transporters of marine products.
This structure is a gift of head of state for the Christmas Day for all population of Yupwe and Cameroon also. I am a transporter in Yupwe. We bring all the fish and everything in this area.
The stakeholders and users have thanked the head of state and the Japanese government for making the Yupwe landing stage and fish market a veritable place for tourism. CLTV News, Douala.
At 15 minutes past 5 p.m., Clarisse, you're going to continue news with the board meeting of SOPECA.
Manque un peu plus de 22 milliards de francs CFA pour l'année 2025. C'est le budget qui vient d'être adopté au cours de la 72e session ordinaire du conseil d'administration de la SOPECAM. L'activité phare de l'entreprise pour 2025 est la couverture des échéances électorales pour le président du conseil d'administration. La remobilisation des équipes de travail de la société de presse et d'édition du Cameroun va permettre d'optimiser les performances de l'entreprise. Écoutons Joseph Lay, président du conseil d'administration de la SOPECAM, dans cet extrait sélectionné par Gilles-Claude Mbongitundi.
Nous avons examiné les rapports sur l'exécution du précédent budget, rapports d'activité et autres, et ensuite nous nous sommes projetés sur l'année 2025, qui est une année extrêmement importante dans la vie de la nation, avec en perspective très probablement un double scrutin. D'abord l'élection présidentielle, ensuite l'élection des conseils régionaux. À cet effet, nous venons d'adopter un budget qui s'élève à un peu plus de 22 milliards de francs CFA. Cela va permettre de couvrir ces différents scrutins en même temps que nous devrions renouveler ou alors réhabiliter les outils de travail, étant entendu que certains de ces outils sont déjà quelque peu obsolètes. Nous devrions également remettre nos personnels au travail. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne travaillaient plus, mais nous voulons les remobiliser pour atteindre véritablement les objectifs qui nous sont assignés par l'État, qui est actionnaire unique de la SOPECAM. Nous avons insisté sur la mise en place d'un nouvel organigramme, étant donné que depuis 2016, la SOPECAM est devenue une société à capital public. Il faut donc adapter les mécanismes de fonctionnement de l'entreprise à ce nouveau statut.
Le ministre Joseph Lay, président du conseil d'administration de la SOPECAM. De son côté, l'Institut national de la jeunesse et des sports en 2025 fonctionnera avec un budget de 952 500 000 francs CFA. L'établissement d'enseignement supérieur se donne entre autres comme objectif de poursuivre le processus de modernisation de ses infrastructures, de densifier la masse critique de ses enseignants, mais également de renforcer le concept université-entreprise. C'est l'une des conclusion de la 13e session ordinaire du conseil de direction de l'INJS, tenue ce jour à Yaoundé sous la présidence de Adoum Garoua, président du dit conseil, en présence du directeur de l'Institut, Ebal Meunier Edmond. Les détails avec Agnès-Sylvie Nandjama.
C'est sous les acclamations des membres que le président du conseil de direction de l'INJS, Adoum Garoua, a refermé les travaux de cette 13e session du conseil de direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports. La rencontre annuelle a permis de passer en revue l'année 2024 de l'INJS et les perspectives pour 2025. Une nouvelle année durant laquelle l'institution fera un saut qualitatif pour se donner un nouveau visage afin de continuer de mouler des professionnels de jeunesse et animation, des professeurs DPS et autres profils dont a besoin le mouvement sportif camerounais, d'où les nombreuses recommandations déclinées par le directeur de l'INJS, Ebal Meunier Edmond.
Nous allons continuer à poursuivre nos objectifs de performance, surtout pour ce qui est de la formation des cadres de jeunesse, d'animation, de sport et d'éducation civique.
Du communiqué final lu par le directeur adjoint de l'INJS, il ressort que le budget de l'exercice 2025 voté est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 952 500 000 francs CFA. Les priorités sont davantage présentées par le directeur de l'INJS.
Les projets que nous mettons en avant et qui constituent le principal défi que nous devons relever, c'est de changer le visage infrastructurel de l'INJS.
Le président du conseil, Adoum Garoua, invite le directeur et son équipe à penser de nouvelles approches de financement pour renforcer le concept université-entreprise déjà mis en œuvre à l'INJS.
L'INJS pour loisirs vacants, ça cadre avec ce que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, attend en matière d'université-entreprise.
En félicitant les membres du conseil pour la qualité des échanges, Adoum Garoua leur souhaite les meilleurs vœux, non sans oublier de les exhorter à redoubler d'efforts en 2025 pour permettre à l'INJS de remplir efficacement ses missions.
Les responsables récemment nommés au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable étaient installés ce jour. Une cérémonie présidée par le ministre Élie Pierre qui avait à ses côtés son homologue de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu Esomba. Le membre du gouvernement a prescrit au nouveau promu l'engagement au travail et la collaboration interservice. Rachid Anjab.
Ils sont au total 11 promus, installés ce jour par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Parmi eux, Joséphine Thérèse Elundu, inspecteur général, et Adama Saïdou, conseiller technique numéro 1, prennent l'engagement de mener à bien leur mission.
Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, lui qui est au début et à la fin de toutes choses. Je voudrais par la suite dire merci à la hiérarchie qui me fait confiance aujourd'hui pour me porter à ce poste-là. Entre au cabinet, c'est une mission délicate à ce niveau. Et nous allons s'atteler à ce que nous ayons tous les dossiers qui nous seront confiés, que nous les traitons avec beaucoup de tact.
Un grand merci au chef de l'État pour la marque de confiance et beaucoup plus à mon ministre, M. Élie Pierre, de m'avoir donné cette opportunité. Je suis fier du travail abattu jusqu'à aujourd'hui et c'est pour moi un engagement et une fierté encore de me mettre encore plus résolument au travail pour accompagner le ministre Élie Pierre dans l'accomplissement de ses missions.
Probité, sérénité, loyauté et innovation, ce sont quelques recommandations parmi tant d'autres du ministre Élie Pierre au nouveau promu. Il est question pour les nommés de relever les défis auxquels sont confrontées la population, notamment la protection de l'environnement et la promotion du développement durable et équitable.
17h22 minutes, vous écoutez le 17-18 sur la CRTV Mankaa. C'est la fin d'année. Les administrations épluchent leur rapport d'activité et se projettent. C'était le cas avec la SOPECAM.
That's right, Clarice. The Cameroon Press and Publishing Company SOPECAM will in 2025 run on the budget of over 22 billion CFA francs to help accomplish its missions of duly informing the general public on events and happenings in and out of the country. Minister Joseph Lee, President of the Board of Directors, today chaired the 72nd session of the institution's board meeting in Yaoundé, where in the 2025 plan of action was drawn to include the strategic plan of coverage of the presidential and regional elections. A committee to oversee the establishment of a new organizational chart of SOPECAM was also set during today's sittings. And Joseph Lee spoke to Vanessa Wood-Nansinamu in this excerpt of an interview.
The year 2025 is a very, very important year in the life of our nation, with at least two elections, the presidential election and the regional elections. We have also tried to see how SOPECAM can well accomplish its role by accompanying the state, by doing all what we have to do in our sector of activity. Then we also thought that it's now important, very important, to adopt a new algorithm. That's why we put in place a working group that will work on this aspect for 30 days. It means that at the end of January, we must have a new organigram and see who are the personnel who can occupy this or that post of duty. I can tell you that everything went on smoothly. We have been working together without any problem, and SOPECAM is now ready to face the new challenges that are coming, especially for the year 2025.
That was the board chair of SOPECAM, Minister Joseph Alim. The National Institute of Youth and Sports, INJS, will be given a facelift in the upcoming year as part of priority projects earmarked in the 2025 budget, which stands at over 950 million CFA francs. Voting the 2025 budget of the institution during the third ordinary session of the Board of Directors in Yaoundé today, the board chair, Adoum Garoua, congratulated the director of the institution, Ebal Mi Minier Edmond for the strides made in transforming INGS to a university enterprise. Elizabeth Bumbuniago tells us more.
The third ordinary session of the Board of Directors of the National Institute of Youth and Sports, INGS, which unfolded at the VIP lodge of the institution under the chairmanship of its president, Adom Garua, centered on the evaluation of its performance objective for the year 2024, while examining and adopting its 2025 budget and plan of action. The director of INGS, Ebal Minye Edmond, threw small light.
And the main objective was to adopt our budget, the 2025 budget of the National Institute of Youth and Sport. We have adopted it. It is more than 900 million. We think that with this dotation, we can achieve some of our goals concerning the training of executive of sports and physical education.
All the priority projects earmarked in the 2025 budget, which stands at 952,500,000 CFA francs, include infrastructural development with the objective of giving a facelift to the institution and the upgrading of the newly promoted staff, congratulating the director for his input in making INGS a university enterprise. The board chair, together with the other members, expressed gratitude to the head of state for ameliorating university governance.
Elizabeth Mbomboneago reporting on to another session. The Douala City Council plans to intensify garbage collection and the rehabilitation of infrastructure in 2025. This follows the adoption of a 72 billion CFA francs budget for 2025 during their fourth session in Douala today. Details with Bipia Atang Tabara in Douala.
The Douala City Council has adopted a budget of 72 billion francs CFA, representing a 12.66% increase from last year. The total commitment authorizations from these projects programmed are projected to reach 84.26 billion francs CFA, down from 91.3 billion in 2024. These figures ensure the implementation of projects in 2024. According to Dr. Roger Mbassandine, mayor of the Douala City Council.
The money will be used for the rehabilitation of the city of Douala. We'll put in more effort, still it is realization. This is the first part with a focus of transforming the town.
Regarding owned resources, they are projected to reach 6.63 billion in 2025. Tax-based revenues are expected to total 58.87 billion francs CFA. Investment revenues are forecasted at 6.5 billion expected from the insurance of negotiable debt securities currently being finalized. Bitmia Atangtabara, CRTV News, Douala.
The 2025 state budget takes effect from January 1, 2025. This follows the promulgation of the finance bill that was recently adopted in Parliament with a balanced income and expenditure of 7,317.7 billion CFA francs. Alvin Jembonde comes back on some of the keynotes of the 2025 finance law.
The government is aiming at 2025 in positive strides with a budget with a 39.6% increase compared to 2024, basing its projections on the resilience and diversity of the Cameroonian economy and positive global indicators, which suggest an increase in the growth rate by 1% next year, like this year, compared to last year. This positive outlook is driven by the non-oil sector and major gains expected in the mining sector. But this will mean a continuation in the realization of structural projects and sustaining the efforts made in the agricultural sector by rendering the major agricultural basins more accessible and improving on the road network, for which a lion's share of the budgetary allocations is being dedicated. The finance bill emphasizes the need to continue to drastically reduce government subvention on petroleum products, even though it doesn't specify an increase in the prices of petroleum products in the pump in filling stations in 2025. It calls for more sacrifices to be made, while continuing to achieve the common goals of the National Development Strategy and the peaceful organization of the 2025 presidential election, with the general outlook and guidelines contained in the economic vision of the state. This also means an intensification in the fight against corruption, a streamlining of the state's expenditure pattern, and the patriotism and sincerity of all vote holders.
Arben Jembonde reporting. While defending the finance bill in Parliament, the Minister of Finance, Paul Motsepe, emphasized and fuel prices and taxes will not be increased, explaining that the priority in budget execution in 2025 will be on reducing deficit. Here is an excerpt selected by Albert Njembonde.
We are still continuing with what we call budgetary consolidation. That means that we would like to cut the deficit, the difference between resources and the expenses. And we are in a very good step, and we hope that with what we expect for 2025, we are going to achieve the goal. Because when you consider all our resources, you will notice that there is a slight increase from year to year. So we have to continue like that. At the same time, we have to cut the expenses. And please, I heard that there is an increase of fuel. I don't know who told people. The reason is that there is less subsidy because the international price of the fuel has gone down and is equivalent to what people pay now. So if the price is quite the same, there is no more need to pay some subsidy. This is the reason. But I saw that some people thought that we are going to increase the price. No, this is not true.
That was the Minister of Finance, Paul Motsepe, talking to the CRTV. 11 officials have been installed into key positions at the Ministry of the Environment, Nature Protection and Sustainable Development to enhance the country's efforts in conserving nature and ecosystems. The ceremony presided over by Minister Helepia Nyaunde emphasized the urgency of addressing environmental challenges and advancing sustainable development initiatives. Apongse Ati has details.
It was a day filled with celebration as 11 newly appointed officials took on their roles. The installation ceremony was a call to action for safeguarding the nation's environment and promoting sustainable development. The officials, including directors and technical advisors, are set to spearhead initiatives to protect nature and ecosystem. Amongst them was Josephine Therese Elundu Beyala, appointed Inspector General.
First of all, convey gratitude to the head of state for this confidence. It's a very exciting mission for me to control and evaluate the services and the challenges which the ministry and the country in general is facing.
In his address, Minister Ele Pierre highlighted the weight of their responsibility. The newly appointed technical advisor number 2, Umar Inusa, shares his joy and gratitude.
I'm very happy as a minority community, Mbororo pastoralist from the Northwest, if I can find myself today as a technical advisor to the minister, I thank God. I have to thank Minister Helepierre. The mission line ahead, we also have to work hard.
The event ended with attendees applauding the energy and optimism displayed by the newly installed officials.
Apongse Ati reporting. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi, who doubles as the national president of the Sociocultural Association of the Laka people, has urged the population at Sangere Ngal in the north region to spread the gospel of Christ Jesus in their mother tongue. He was speaking during a ceremony to dedicate the New Testament Bibles in the presence of administrative and traditional authorities of the area. Our reporter Mercy Ashunyabeyo captured the sights and sounds of that ceremony and now reports.
The New Testament Bibles, translated into the Laka language spoken in the north of Cameroon, is a source of joy to the local communities here who before now had to hear or read the Word of God purely in the French language. Dedicating the Bibles, which have taken up financial and intellectual resources to put together, the officiating minister, Pastor Mugun Paul, urged the Imamot crowd to transmit the Word of God using their mother tongue, citing Acts 21 from verses 37 to 40 as a reference.
Friends.
Speaking in his capacity as president of the Sociocultural Association of the Laka people, Agriculture and Rural Development Minister Gabriel Mbairobe hinted that the Bibles will promote peaceful coexistence and love. The New Testament Bible speaks of love, tolerance, and love for one's fellow man. I think it's a moment of reflection, and I am happy to see the huge mobilization. Present to witness a ceremony were administrative and traditional authorities from the Garua Three Council area. Mercy Ashunyabeye, CRTV News, Garua.
17h35, vous êtes sur la CRTV Poste National. Le Nouveau Testament en langue Laka, désormais disponible. Il a été dédicacé à Sangéré, Ngal, dans l'arrondissement de Garoua 3e, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, président national de l'association socioculturelle Laka, Askula Gelnodi. Gabriel Mbairobe a demandé à ses frères et sœurs de faire de la parole de Dieu leur priorité en s'appuyant sur ce saint livre pour que règne l'amour et la paix. Reportage Jean Fomargui.
Des chants entonnés de vive voix par les fils et filles Laka pour célébrer le Nouveau Testament désormais en leur langue. La cérémonie de dédicace qui s'est déroulée à Sangéringal dans l'arrondissement de Garoua 3e a donné l'occasion à ce peuple de montrer leur détermination à travers la parole de Dieu de promouvoir davantage l'amour, la paix et la valorisation de leur culture. Révérend Henri Nagy, président du comité d'organisation de la dédicace.
Par la grâce de Dieu, la communauté Laka sera bien outillée par ce Nouveau Testament et ça va les aider vraiment à les transformer, à vivre dans l'amour et dans l'entente avec les autres.
Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, par ailleurs président national de l'association socioculturelle Laka, Askula Ngelnouji, qui a procédé à la distribution de ce Nouveau Testament aux autorités traditionnelles et religieuses, a exhorté ses frères et sœurs Laka à rester fidèles à la parole de Dieu afin d'être des chrétiens exemplaires. Gabriel Mbairobe.
Ce Nouveau Testament parle essentiellement de l'amour du prochain, de la tolérance et de l'acceptation de son prochain. Et je crois que c'est un moment fort. Nous sommes heureux que les populations soient sorties nombreuses.
Des dons ont été remis à l'effet d'équiper la case communautaire construite pour abriter des pareils événements et la prière a été dite pour la stabilité au Cameroun. Garoua, Jean Fumargué, CRTV.
Je vous donne à présent lecture du communiqué final ayant sanctionné les travaux de la 51e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Université de Chang. La 51e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Université de Chang, consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'Université de Chang pour le compte de l'exercice 2025, s'est tenue le 27 décembre 2024 dans la salle de réunion du Centre de développement numérique universitaire sous la présidence effective du professeur Paul-Célestin Dembiyembe, président du dit conseil. Le recteur, professeur Roger Tsafak Nanfousso, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Au terme des travaux, le conseil d'administration a approuvé le projet de performance 2025 de l'Université de Chang. Conséquemment, il a adopté le budget de l'Université de Chang pour le compte de l'exercice 2025 qui s'élève à la somme de 7 973 721 138 francs CFA. Le Conseil a également approuvé les résolutions et recommandations de la 55e session du Conseil d'université tenue le 23 décembre 2024. Il a par ailleurs approuvé le plan stratégique de développement infrastructurel de l'institution. En outre, le Conseil d'administration a félicité le recteur pour la production rapide d'un livre blanc sur la fragilité des sols dans la région de l'Ouest et le long de la falaise de Forêt-Kéchan, en accompagnement du gouvernement dans la consolidation des politiques publiques et leur mise en œuvre effective. Enfin, les administrateurs ont à l'unanimité félicité le recteur pour les efforts déployés en vue du maintien des standards académiques, de la préservation des acquis et de l'amélioration accrue des performances de l'institution. C'est fait à Chang le 27 décembre 2024 et signé du président du conseil d'administration, le professeur Paul-Célestin Dembiyembe. Conseil d'administration, 63e session des comptes de Marois le 5 décembre 2024. La 63e session du conseil d'administration de la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua, Semri, s'est tenue le 5 décembre 2024 dans la salle des conférences de l'hôtel Le Sahel à Marois, sous la présidence effective de M. Midji Yawa Bakari, président du dit conseil. M. Fissoukouma, directeur général de la SEMRI, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Au terme de fructueux échanges sur les points inscrits à l'ordre du jour, le conseil d'administration a adopté les états financiers de la SEMRI, clos au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration a exprimé sa satisfaction et a adressé ses félicitations à la direction générale pour la qualité et la pertinence des documents présentés. Enfin, le conseil d'administration a donné quitus au directeur général pour sa gestion au titre du dit exercice. C'est fait à Marois le 5 décembre 2024 et signé du président du conseil d'administration de la SEMRI, Midji Yawa Bakari. Je vous donne enfin lecture de ce communiqué en provenance de la Direction générale des impôts. Le ministre des Finances informe le public que la plateforme de déclaration en ligne de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a récemment rencontré une surcharge exceptionnelle due à un afflux simultané de plusieurs dizaines de milliers de connexions. Cet engorgement temporaire a occasionné des difficultés d'accès pour certains contribuables. Face à cette situation, l'administration fiscale a immédiatement renforcé les capacités techniques de la plateforme pour mieux absorber le volume des connexions. La plateforme Harmonie Fiscalis est disponible pour offrir une alternative performante aux usagers. Par ailleurs, des équipes dédiées en ligne et en présentiel ont été mobilisées pour accompagner les contribuables avec réactivité et efficacité. Tout en regrettant les désagréments occasionnés par cette situation, le ministre des Finances rappelle que la date limite initiale de déclaration fixée au 30 juin 2024 a été repoussée par deux fois, au 30 septembre puis au 1er décembre 2024, offrant ainsi un délai supplémentaire de 5 mois pour se conformer aux obligations fiscales. Les contribuables n'ayant pas encore déclaré et payé leur impôt sur le revenu, des personnes physiques sont ainsi invitées à profiter de la journée du lundi 2 décembre 2024 et du délai de relance amiable du 3 au 9 décembre 2024 prévu par l'article L3 du Code général des impôts pour régulariser leur situation fiscale. Compte tenu des perturbations observées ces derniers jours sur la plateforme de télédéclaration, aucune pénalité de retard ne leur sera appliquée dans ce délai. Le ministre des Finances réitère son engagement à accompagner les citoyens dans le respect de leurs obligations fiscales, un acte essentiel de justice fiscale et de contribution au développement national. Il en appelle au civisme et à la coopération de tous pour garantir le succès de cette campagne de déclaration. Un communiqué signé de Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances.
Écoutez le 17-18, toute l'actu en direct.
You're welcome to the magazine segment of the 5 to 6 p.m. The party has today inaugurated a landing stage and fish market in Yupwe Douala, which will help fishermen, traders and consumers of fish better handle storage and other aspects at the fish market. Fish production is going to increase and this will no doubt help support the import substitution policy. Our guest on the 5 to 6 p.m. today is the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industry, Dr. Tiger. Follow his interview with Olivier Kingemoli of CRTV Littoral right after the break.
L'inauguration officielle du débarcadère et du marché aux poissons de Yupwe, c'était donc ce matin à Douala. De l'avis du ministre en charge de la pêche qui a assuré la mise en place du projet, la production et la commercialisation du poisson vont gagner en volume et en qualité pour soutenir la politique de l'import substitution. Le docteur Taïga, invité du 17-18, s'exprime au micro de CRTV Littoral, Olivier Kingemoli.
Docteur Taïga, l'événement de ce 27 décembre à Douala, dans quel contexte vous le situez?
L'événement de Douala, d'abord, se situe dans le cadre des fêtes de fin d'année, mais davantage dans le cadre de la coopération Cameroun-Japon. C'est un événement qui permet de présenter l'évolution en termes de prise en charge d'un secteur stratégique qu'est la pêche artisanale, plus précisément la pêche artisanale maritime.
Est-ce que vous avez l'impression que jusqu'ici, les ménages, les populations camerounaises se sont bien alimentés en produits halieutiques?
Au-delà du poisson, il y a du poulet, il y a de la viande porcine, il y a de la viande bovine. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour passer de très bonnes fêtes.
Ces filières que vous évoquez, Monsieur le ministre, représentent encore aujourd'hui en termes de contribution au PIB?
Nous sommes un pays essentiellement agricole. Une grande partie de notre PIB, effectivement, est constituée de la contribution de ce secteur.
Venons-en, si vous le voulez bien, Monsieur le ministre, à l'événement de ce 27 décembre à Douala. Pour vous, c'est l'aboutissement de quoi?
Non, c'est le travail routinier du ministère de l'Élevage, d'accompagner tous les maillons du secteur de développement de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et des industries animales. C'est un travail qui amène à une évolution de tout ce qui est sectoriel. Nous avons les trois grandes bases. L'élevage, nous avons la base pêche, nous avons la base industrie animale. Et il faut comprendre que pour chaque maillon, il y a lieu de poser des actes qui quotidiennement nous amène à faire évoluer un secteur d'activité. Il faut voir derrière le débarcadère et le marché aux poissons l'évolution des conditions d'un travail décent des acteurs. Il faut voir derrière le débarcadère et le marché aux poissons une coopération établie entre le Cameroun et le Japon à travers son excellence de président de la République qui, avec l'empereur du Japon, ont de très bonnes relations.
Alors, vous voulez développer un secteur qui donne des éléments de vie à des acteurs, à des populations rurales, paysannes, mais également un secteur qui est inscrit dans une politique d'import-substitution. Est-ce que vous pensez que ceci va apporter un impact sérieux à cette politique-là?
La politique d'import-substitution voulue par le chef de l'État est en cours de mise en œuvre. Elle est davantage importante vu le rôle d'inclusion que va susciter le travail dans le secteur rural, notamment en agriculture de manière générale. Cette politique d'import-substitution commence à donner des résultats fabuleux. Je fais quelques rappels dans ce sens. Nous n'importons plus de poulet. Ça signifie que le poulet que nous trouvons sur le marché a été produit localement par des Camerounais et consommé par des Camerounais. D'ailleurs, une partie de la production avicole, notamment les œufs, s'exporte aujourd'hui. Voilà les résultats de la politique du chef de l'État.
Mais on importe encore beaucoup le poisson.
Il y a une inflexion dans le cas de l'importation du poisson. Entre 2022 et 2023, il y a eu moins de 11% d'importation avec une valeur estimée à près d'une vingtaine de milliards qui ne sont plus sortis dans le cadre des importations.
Y a-t-il pas d'autres moyens que le gouvernement doit mettre en œuvre au profit des acteurs, des producteurs pour... J'ai failli dire pêcher beaucoup plus.
Oui, ce que vous dites est tout à fait certain. Le débarcadère, c'est un maillon d'une activité de développement. Vous savez que le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, met en place aujourd'hui, avec la collaboration de la Banque mondiale, le PULCA, qui est le projet de lutte contre la crise alimentaire.
Alors, Monsieur le ministre, au terme de cet événement du 27 décembre à Douala, qui marque l'aboutissement d'un projet qui a été mené de main de maître par le ministère dont vous avez la charge. Est-ce que vous avez un message particulier aux acteurs et bénéficiaires d'une infrastructure?
Nous travaillons avec les mailleurs, nous travaillons avec les producteurs. Nous leur demandons que c'est un outil de développement, qu'ils en fassent bon usage. Cet outil, comme vous le savez, dans le cadre de la décentralisation, sera sous la gestion de la mairie de la ville et le ministère de l'élevage déploiera un encadrement pour les inspections sanitaires vétérinaires.
Monsieur le ministre, Dr. Taïga, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Thank you very much, Olivier Kinge Mbuli. And it's time to talk culture, and our lady on that beat is Patience Wingo. Hello, Patience, welcome to join us.
Hello, Mankambi. Hello, Clarice. Soir.
And today you bring news about Lillian Beng, popularly known as Caro, who is fondly identified with Kopis in the comedy industry. Now, from the streets of Buya to the spotlight of the Cameroonian cinema, Lillian Beng is a rising star in the entertainment world. Patience, you say she is a graduate from the University of Buya with a degree in psychology.
Yes, Mankambe Caro, as we fondly know her on social media platforms, is a testament to resilience and ambition. She is a talented actress, comedian, and model who has turned her challenging past into a platform for success. From overcoming the loss of both parents to thriving in the entertainment world, Lillian's story is one of perseverance and determination. In the following excerpt of an interview I had with Lillian Beng, a.k.a. Carol, she starts by telling us the challenges she faces as a woman in the entertainment industry.
How has it been excelling as a lady in the comedy industry mostly dominated in Cameroon by men? What an amazing question. You see, I hardly get such a question. And I think this question is really necessary because I feel like the world needs to understand what it feels like working with men. So I would say it's been amazing. It's been a learning process. Working with men has actually pushed me to be harder on myself, to not be weak, to understand that I am in a competitive space, to be able to redefine myself, know who I am, know my strength, know my weaknesses, and know my force. I'm blessed to be among men who understands women, men who gives me the opportunity to express myself, to be me, to contribute, men who believe in my potentials, believe in my impact, in my community impact, believe in my force, and believe in what I represent. So it's been an amazing job because this man makes it easier for me to work, for me to operate. We get to collaborate a lot. We get to do amazing projects together with me not feeling left out, with me not feeling belittled, with me not feeling like, oh, I'm looked down on because I'm a woman. So I am strong. I believe in myself. I am smart. I am talented. I am intelligent. I know what it means to work with people, and I'm blessed to be working with these men who understands and see me for the iron lady that I am. I will still say it's been a learning process, especially getting into movie production, because that has not been my thing, actually. So I would say comedy has greatly contributed to Emerald Productions 237. That is the name of my production house. Because getting into movie making, the brand Caro had already been established. Cameroonians, Africans already believed in my potentials, believe in what I can bring to the table, believe in my strengths, believe in what I can put on the table. I should put it that way. Believe in yourself and have it in mind that you face challenges. You definitely stumble as many times as possible. But that goal, that vision, that passion that brought you in the first place should be your driving force. Create a niche for yourself. Do not try to be like any other person. Create your own niche. Stand on it. Getting into comedy doesn't necessarily mean you be like Carol, or you be like Auntie Felicia, or you be like, you know, the Dokas. Come in with your own niche. You can be you, looking all beautiful, dressed up, but you are still a comedian, doing your own thing in your own corner, having the best time of your life and making money out of it. So to every aspiring comedian, female comedian, I encourage you to come forward, family in one, so together we can come up and make the female sector in comedy blow. I mean, let the world know that women are able and capable to do anything they set their minds to. So to all of you desiring to join comedy, Queen Mother is here. Come forward. Let's create magic. Thank you so much.
Thank you very much, Carol. And I hope your female fans tap from your strength. Manka and Bay, that will be it for our culture slots this Friday.
Thank you very much for coming on board, Patience, and you have a wonderful weekend.
Same to you.
À 7h53, nous voici à l'étranger. L'ancien premier ministre indien Manmohan Singh est décédé jeudi à New Delhi à l'âge de 92 ans suite à des problèmes de santé liés à l'âge et à des complications cardiaques. Formé à Cambridge et à Oxford et membre du Parti du Congrès, l'homme a gouverné l'Inde entre 2004 et 2014, s'attachant à transformer son pays en une puissance économique moderne et dynamique. La journaliste italienne Cecilia Sala, qui se trouvait en Iran depuis une dizaine de jours, dans le cadre de son travail, a été été arrêté le 19 décembre dernier par la police de Téhéran. Selon le site du quotidien La Repubblica, la jeune journaliste s'apprêtait à rentrer en Italie quand elle a été arrêtée. Arrivée en Iran avec un visa de journaliste, elle a publié plusieurs reportages sur les changements dans ce pays après la chute en Syrie du président Bachar al-Assad.
Beyond the frontiers, at least 69 Malians have died after a boat bound for Spain from West Africa capsized off Morocco. The makeshift boat was carrying about 80 people, but only 11 survived, and at least 9 of the survivors are from Mali. And in Nigeria has denied accusations from Niger's military leader, Brigadier General Abdurrahman Tchiani, of colluding with France to destabilize the junta-led nation. General Tchiani accused France of aligning with militant groups in the Lake Chad region to undermine Niger's security, allegedly with Nigeria's knowledge. The Nigerian authorities are not unaware of this underhanded move.
En sport, les Centrafricains, adversaires des Lions Indomptables à prime dans le cadre du match retour des éliminatoires du CHAN 2025, se disent déterminés à remporter la rencontre de demain samedi au stade Kwekon à Bafoussam. L'entraîneur principal des Centrafricains, Sébastien Gatto, l'a martelé au cours de la conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Jean de Dieu Coigneux à Bafoussam.
On se sent comme chez nous. Comme l'année dernière, on a joué ici, on va continuer de jouer, il n'y a pas de problème. C'est un échauffement juste pour voir exactement comment l'état du terrain, pour que d'ici demain, on va revenir ici jouer le match. La pelouse, c'est officiel international. Nous sommes aussi habitués à jouer ce genre de match-là sur des pelouses comme ça ailleurs. On a un but, je leur ai dit que c'est 2 buts à remonter demain, donc on va essayer de se jeter dans la bataille, mais tout en préservant, en respectant l'équipe de Cameroun. Comme quoi, c'est une équipe de compétition, comme la RCA aussi.
Les populations de l'Ouest sont heureuses de voir séjourner dans leur région. L'équipe nationale a pris mais remercie le président de la République pour la qualité des infrastructures sportives dont elle bénéficie. Reportage Emmanuel Kolokou de CRTV Ouest.
C'est dans toute la région de l'Ouest que les populations amoureuses de football attendent avec joie le match Cameroun-République centrafricaine, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2024.
Nous sommes très fiers à l'Ouest de recueillir les Lions Indomptables avec une grande équipe comme le centrafricain.
Lors de la CAN 2021 au Cameroun, le Sénégal, le Malawi, la Guinée-Bissau, logés dans le groupe B, séjournaient à Bangou et à Bana. Ils s'affrontaient au stade Kwekon de Bafoussam, construit spécialement pour la CAN. Aujourd'hui, les Lions Indomptables à prime vont donner l'occasion à ces populations de revivre un match international.
C'est cette fortitude qu'on a créée au Cameroun. L'Ouest a beaucoup profité.
C'est une grâce que nous ayons pu avoir toutes ces infrastructures. Ça va davantage promouvoir le football dans la région de l'Ouest.
Tous les supporters attendent la victoire et un spectacle digne de ce que savent faire les jeunes motivés du Cameroun sur un stade.
Moi, je ne peux que penser à la victoire des Lions qui remportent ce match.
La Centrafricaine qui est un pays frère, on pronostique c'est 2-0 pour le Cameroun.
L'Ouest est une région bardée d'infrastructures sportives. Les talents en sortent par milliers dans chaque département. Et c'est dans ce contexte que l'équipe nationale à prime s'entraîne depuis le 25 décembre dernier, espérant donner plus d'espoir à la région, non seulement, mais au Cameroun tout entier, Bafoussam. Emmanuel Kolokou, CIA TV.
The Intermediate Lions of Cameroon will take on their Central African counterparts tomorrow at the Kwekon Omispor Stadium in Bafoussam. The match will count for the final round of qualifiers to the 2024 CAF Total Energies African Nations Championship de CHAN 2024. Meanwhile, the game has generated excitement among residents of the West Region who are proud to host the national team. Locals have expressed gratitude to the President of the Republic for equipping the region with world-class sports infrastructure, elevating its stature as a prime destination for major sports events. Shivon Bogoma reports from Bafoussam.
Football fever is sweeping through the West region as fans gear up for the highly anticipated clash between Cameroon and the Central African Republic. The showdown at the Kwekon Omnisports Stadium promises to reignite the region's passion for international football.
It's a privilege that the president gave us that much infrastructure in the West region. And ever since, teams of the West region have been performing very well at the level of the National League and the National Cup.
Now, the Intermediate Lions are back, giving the region another shot at the electrifying atmosphere of top-tier competition.
We are very happy to receive this match because it's been long. Ever since we had the African Nations Cup here, we have not really received another match of that level. We're impatient to see what is going to happen.
We know the Lion will win the match, and it's a great event. We'll be there to support the Lion.
The West region, home to exceptional sports facilities and a cradle for budding talents from across its divisions, has expressed its role as a hub for football excellence. With the Lions pitching camp here since December 25, the stage is set for a performance that could inspire not only the region, but the entire nation. Shivong Borgama, CRTV News, Bafusam.
Before we end the 5 to 6 p.m., once again, our top stories. Prime Minister Head of Government Joseph John Guter inaugurates an over 6 billion TFA francs ultra-modern landing stage and fish market in Yupwe Douala, fruit of bilateral cooperation between Cameroon and Japan. This huge investment is expected to boost the local economy and improve the lives of the people.
Douala, du poisson débarqué et conservé dans de meilleures conditions. Le débarcadère et le marché aux poissons de Yupwe, désormais fonctionnel, inauguré ce vendredi par le Premier ministre chef du gouvernement qui convoque la responsabilité des usagers. Ce journal était mis en onde par Célestin Gouès, réalisation Marlise Natachambaan, Colette Djani, présentation Mankaa Ambe, Clarisse Njanga, coordination Serge Foisgué, rédacteur en chef. Madame, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Restez sur la CRTV.